réfléchir. L'envie souvent soumet l'idée. Avant de quitter, faut choisir. Son planning me semble cap idéal. Mais pour partir, faut être sûr. Rester un brin original. Pour satisfaire avant tout le nécessaire, l'instinct magique reste animal. S'en aller sans se faire de mal, s'en aller solo mais dans le sac, y a toujours un rendez-vous avec l'amour. J'ai la folie bien accrochée, mais j'ai encore une chaîne aux pieds. Avec allure, moi je suis plus civilisée. J'ai eu du temps pour réfléchir, se sentir prête d'envoyer tout balader. Mais j'ai rendez-vous avec mon chien, se refaire la tête pour espérer, pour mettre un point à la ligne.
Eh oui, tout recommencer, c'est la rentrée FPP 3e jeudi, on a perdu un petit peu nos habitudes, il va falloir qu'on les reprenne. On a décidé de partir sur des expériences très positives aujourd'hui. On va parler de culture de paix, de navigation fluviale, puisqu'on parle de navigation fluviale, qui est donc un bien commun qui appartient à tous. On va parler d'un festival qui s'appelle Paname en bien commun, et on reçoit... On a l'habitude du live musical. On reçoit Soria qui va nous interpréter une chanson en direct.
Absolument, bonsoir.
Bonsoir, Zoukem Écologie, 3e jeudi. Bonjour Laurence, bonjour Alexandre.
Bonjour Sophie.
C'est reparti.
On est ravis.
Et ben, go pour Zoom Écologie.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30. À 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour à tous, donc on va parler de Alternat avec Eric Sapin. Bonjour.
Bonsoir à tout le monde.
Et vous participez en plus à un festival dont on va parler après avec Flore Berlingen. Bonjour.
Bonsoir.
Qui s'appelle... Oui, bonsoir, il fait un petit peu nuit, effectivement. Reprise de l'été, c'est pas facile.
Mais la rediffusion est 8h, donc bonjour. Bon matin.
Ah, c'est pour les gens du mercredi matin, c'est vrai, 8h.
Et je passe la main à Laurence qui avait prévu de nous introduire Alternat.
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance cet été. J'ai pu profiter, on va dire, d'une croisière. On va appeler ça comme ça, hein, sur la Seine. Alors, il y avait des jeunes filles qui venaient de Saint-Denis, d'Aubervilliers. Enfin, Eric va préciser ça tout à l'heure, qui ont fait un spectacle sur les berges de Seine, qui vont d'ailleurs, je crois, bientôt s'appeler André Gors, ce qui est plutôt un bel hommage à l'écologie. Et elles ont traversé Paris avec un DJ. Elles mettaient une ambiance de dingue. tout ça sur un bateau. Les gens leur faisaient des signes, des quais et tout. Et ces filles-là, bon, moi, j'avais l'impression quand même qu'elles avaient rarement la chance de vraiment venir à Paris. Et là, en plus, c'était dans des circonstances exceptionnelles parce que c'est vrai que quand on n'est pas touriste, quand on n'est pas sur un bateau mouche, on a rarement le plaisir de pouvoir être sur le fleuve qui traverse notre capitale.
Alors, tout à fait, c'était dans le cadre d'un partenariat entre Petit Bain, que vous connaissez certainement, qui est de la gare au pied de la bibliothèque François Mitterrand, qui est une SCIC, donc qui est aussi dans une démarche d'économie sociale et solidaire qui rejoint le combat pour les biens communs, et également le 6B, Fabrique culturelle, qui se trouve à Saint-Denis. Et donc c'était un axe autour de l'inauguration des berges de Seine, où effectivement c'était des jeunes de banlieue, pleins de dynamisme et de créativité, qui ont pu entrer de manière majestueuse avec la péniche, avec ses 180 tonnes qui glissent sur l'eau, dans Paris. Et évidemment, quand on entre dans Paris ou quand on sort de Paris sur la rivière, c'est une toute autre perspective que quand on traverse et on déchire l'espace à toute vitesse avec les voitures ou avec...
Dans un RER.
Exactement.
Hein. Alors Eric, j'ai aucun doute sur le fait que tous nos auditeurs connaissent la péniche Alternate, mais est-ce que juste pour moi, on peut rappeler un peu d'où vient cette péniche, pourquoi elle s'appelle Alternate, quel est son objectif?
Et
c'est pas une péniche tout à fait comme les autres.
Elle a le droit à son petit article sur Wikipédia.
Bravo.
Que j'ai écrit.
En bien commun.
Oui, bien sûr. M'adore Wikipédia.
Donc c'est quoi cette péniche Alternate?
Alors Alternate, c'est un vieux projet qui a une trentaine d'années. Et la péniche elle-même a été construite en 1932. Elle a résisté au nazisme. Elle n'a pas été réquisitionnée par l'armée allemande, contrairement à d'autres bateaux qui ont servi à transporter des tanks sur le Rhin, avant d'être récupérés comme prise de guerre ensuite, après la capitulation allemande. Et c'est un groupe de jeunes du Service Civil International, qui est une association qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. On va commémorer la guerre de 14-18, son déclenchement l'année prochaine. Et cette association, sur les ruines de Verdun, proposait des chantiers internationaux de jeunes, de toutes origines, toutes langues, etc., pour faire vivre concrètement aux jeunes le fait que faire des choses ensemble, même si on n'a pas la même langue, même pas la même culture, pas la même nationalité, bah c'est tellement mieux que de se tirer dessus. Voilà. Et donc dans cette association-là est née l'idée d'une péniche pour la paix. C'était en plein les années 80, une période où on était encore dans une course aux bombes nucléaires entre les Russes et les Américains, particulièrement centrés sur l'Europe, des deux côtés du mur en Allemagne, avec les missiles Pershing et SS-20 de part et d'autre. Et donc l'idée d'une péniche pour la paix, c'était aussi l'idée d'une péniche itinérante. Elle est allée jusqu'à Amsterdam pour une manifestation européenne.
Ouais, pas que pour ça, à mon avis. Mais bon.
Le projet de la faire fonctionner comme un centre socioculturel avec de l'accueil social tous les matins, restaurant d'insertion le midi, formation l'après-midi et programmation culturelle particulièrement dédiée aux pratiques amateurs le soir. On demande une place fixe sur la Seine dans Paris depuis 10 ans et on est face au Port Autonome de Paris, qui est un établissement public d'intérêt industriel et commercial qui ne s'intéresse pas du tout aux biens communs, si ce n'est faire le maximum d'argent le plus vite possible. Et avec les 7 millions de passagers touristes internationaux qui s'intéressent essentiellement aux 20 minutes à toute Berzin entre Tour Eiffel et Notre-Dame, ça fait beaucoup d'argent, très vite. Et les Franciliens, les Parisiens, vous êtes priés de rester spectateurs sur les berges et vous ne pouvez que être des consommateurs abrutis. Donc bienvenue pour ce spectacle. Et moi, je peux vous dire, pour avoir cette expérience sur le fleuve, il y a un vrai combat à mener pour se réapproprier pleinement le fleuve comme un domaine public, justement comme un bien commun. J'insiste encore dessus. Parce que du coup, même pour nous, en tant que péniche pour la paix, on voit bien qu'on est devant une logique strictement commerciale. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais pu accueillir tous les jours des événements, des activités en solidarité avec les Syriens. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que je suis exilé en banlieue. Parce que le Port Autonome de Paris ne s'intéresse qu'à des projets type restaurant, bar, etc. À cause de ça, moi je suis vraiment très très blessé par cette situation. Et là c'est très très concret.
Et quel motif il donne pour refuser ce type de...
Il mélange des tas de choses. Là ils viennent d'avouer qu'ils ont oublié une délibération qui date de 1998. Donc pendant 15 ans, ils n'ont pas appliqué leur propre loi. Cette délibération prévoyait un abattement de 50%. Pour les bateaux accueillant des activités de jeunesse et d'éducation populaire. En 10 ans, je leur ai payé plus de 200 000 euros de droits de stationnement. C'est une vraie spoliation pour un projet associatif. éducatif, une vraie spoliation.
Alors, on entend bien cette colère juste, mais pour parler de choses plus légères, moi, on me disait, enfin légère en même temps, finalement assez lourde, puisqu'on ne peut toujours pas réellement se baigner dans la Seine. On a la chance de vivre dans une ville qui a d'ailleurs été construite autour de la Seine du fait de ce que pouvait apporter le fleuve à la ville en termes de transport de marchandises. Mais aujourd'hui, on a certainement un intérêt aussi à reconquérir ce fleuve et à alimenter la ville via le fleuve, mais tout simplement pour les citoyennes et les parisiennes, les parisiens, est-ce qu'un jour, comme la promesse en avait été faite il y a quelques années de cela, est-ce qu'un jour on pourra vraiment se baigner à nouveau dans la Seine?
On peut dire qu'il y a un énorme progrès. Moi, je le vois quotidiennement. Quand vous puisez de l'eau avec un seau dans la Seine, elle est vraiment transparente. Donc, on a énormément progressé grâce aux stations d'épuration. Donc, il y a un effort considérable qui a été mené. Il reste des pollutions plus chimiques, voire radioactives, puisque nos gens sur Seine diffusent aussi parfois des rejets radioactifs, même si c'est très léger. Donc, ils sont moins visibles. Mais enfin, en tout cas, oui, certainement, il y a un mouvement général, en banlieue en particulier, il y a d'anciens sites de baignade, je pense à Ris-Orangis, récemment on a accueilli une association qui s'appelle La Baignade, et qui milite pour remettre en activité un équipement où il y a encore toutes les des pontons, etc., des petits plongeoires, etc. Donc tout ça, ça dort depuis plusieurs décennies, et ça pourrait être remis en activité. Et j'ai souvenir aussi d'être passé en péniche remontant un groupe de jeunes mineurs étrangers qui étaient qu'on a emmené en vacances en fait à Bois-le-Roi. On est passé juste avant Melun et il y avait une baignade qui est en activité aujourd'hui. Donc en amont de Paris, c'est déjà le cas. Donc certainement que ça va revenir. Maintenant, le problème, c'est de négocier un usage partagé avec l'usage industriel du transport industriel sur le fleuve, puisque vous avez d'énormes barges qui remontent jusqu'à Ivry avec du charbon, par exemple, 2000 tonnes. C'est des convois qui sont très, très gros. Donc évidemment, si vous avez des gens qui se baignent et qui traversent la Seine au moment où il y a un convoi avec un pousseur avec d'énormes turbines qui passent, c'est extrêmement dangereux, en fait. Alors pour ça, pour le resituer dans une perspective historique, il y a Isabelle Bacouche, qui est professeure d'histoire, spécialiste du 19e siècle et qui travaille à l'école des sciences sociales, qui a écrit un livre qui s'appelle « La trace du fleuve » à propos de cette phase où toute la vie sociale qui était sur les bords de la Seine dans Paris a été obligé de refluer parce qu'on a développé un usage industriel du fleuve, le transport industriel. Donc là, aujourd'hui, avec notre retour vers la nature dont on a besoin, sans laquelle l'espèce humaine est condamnée, si l'espèce humaine n'intègre pas dans ses critères d'organisation sociale générale, en fait, les équilibres des écosystèmes, le retour vers le fleuve a du sens, y compris dans le partage de l'espace par rapport à des usages industriels ou commerciaux. Donc c'est aussi quelque chose que nous, on intègre dans notre combat pour notre petite péniche interassociative qu'on veut partager avec tous les Parisiens et tous les Franciliens.
Parce que l'usage commercial fait aussi partie de la vie, d'une certaine façon.
Oui, mais il n'est pas que. C'est ça, le problème. Si tout devient commerce, donc y compris la tendresse, l'enfantement, parce que du point de vue d'un syndicat des travailleurs du sexe, par exemple, on peut considérer que le sexe bénévole, c'est une concurrence déloyale. Puisque du coup, on perd des cotisations sociales.
On va partir loin.
C'est un peu trop tôt.
Je suis un peu dans la provocation.
On va se noyer, là, je pense.
Je suis un peu dans la provocation, mais voilà, c'est vrai que c'est le problème du tout commerce, qu'en fait, on a absolument besoin de ne pas tout réduire à des actes marchands, en fait.
En même temps, c'est moi qui ai commencé.
Ouais.
Mais du coup, il est vraiment possible de se baigner dans la Seine.
Il y a une différence entre l'amont et l'aval sur la Seine.
Oui.
On m'a expliqué.
Alors, il y a une réglementation précise.
On a commencé à en parler tout à l'heure, à l'amont.
Oui, tout à fait. Oui. En amont de avant Paris et avant les grandes stations d'épuration, vous en avez régulièrement. Je pense à celle d'Evry qui est assez importante. Ensuite, on descend. On a celle qui est à Charenton, qui collecte tout le Val-de-Marne et qui renvoie. Ils viennent de faire un gigantesque tunnel souterrain. C'était des travaux colossaux. Ils renvoient toutes les eaux usées qui sont collectées à cet endroit-là jusqu'à Valenton, une grande station d'épuration. Vous avez, et après, plus on descend, ensuite, il y a Achères, évidemment, etc. Et le problème, c'est que quand il y a des gros orages, les grands puits de collecte sont envahis par les eaux pluviales. Et du coup, il y a un débordement dans la rivière, en fait. Et là, il y a un mélange, il n'y a pas de décantation. Et...
Parce que le fleuve a été pendant longtemps l'endroit où se déversaient les déchets de Paris. Ça a été
tout à fait, et ça le reste. On a accueilli récemment une association qui s'appelle Expédition Med, qui a tenu son assemblée générale et une conférence publique sur son action. C'est une association qui fait des prélèvements sur la Méditerranée pour analyser les composants polluants, en fait, et notamment les plastiques. C'est à cette occasion que j'ai découvert, peut-être que vous êtes au courant, mais que les continents de plastique dont on parle et qui se forment au centre des courants circulaires marins, d'une part, je savais que ça se formait, mais je ne savais pas qu'il y en a actuellement 8 à travers le monde, et que la surface totale cumulée de ces zones-là, c'est déjà un tiers de l'Europe. Un tiers de l'Europe de couverture plastique des océans, jusqu'à 30 mètres d'épaisseur. Jusqu'à 30 mètres d'épaisseur. Et 80% de ce plastique provient des fleuves. Donc on a aussi, et là nous on le voit au quotidien, hein, tout ce qui est emporté par la rivière, on voit plein de petits objets. Je m'étais arrivé de voir une carte d'identité périmée qui a été jetée à l'eau, des bouteilles de plastique, des sacs plastiques, des préservatifs, il y en a qui font la fête au bord de l'eau, etc. Donc voilà tout ça qui part vers le fleuve, vers l'océan au bout du compte, et qui vient s'agglutiner. Et c'est des zones après où il n'y a plus que des moustiques qui peuvent vivre. Donc c'est sympathique. Et les plastiques se décomposent très lentement. Pour la plupart, ils ne sont pas biocompostables. Donc ça devient une fragmentation moléculaire qui vient polluer tout l'environnement et qui étouffe le plancton. Donc il y a des conséquences extrêmement graves à long terme. Et là-dessus, bon, il y aura un gros travail à faire. Donc cette association, qui est d'ailleurs très motivée pour faire des prélèvements avec nos bateaux, donc de faire une campagne itinérante en Île-de-France, avait parmi ses invités aussi des gens qui ont fait des études avec des carottages sur les dépôts sédimentaires de la Seine. Et il y a des périodes qui sont très datées où on trouve des métaux lourds, en fait, ce qui n'est plus le cas actuellement. Mais il y a bien sûr des pollutions qui sont installées, en fait, dans les sédiments. Et qui pose des tas de questions, évidemment.
Est-ce que vous avez une action, justement, de dépollution ou de nettoyage du fleuve, ou pas du tout ?
Alors, nous, directement, non. Mais par contre, le SIAP, là, le syndicat, peut-être, Laurence, tu peux m'aider là-dessus, inter-agglomération.
Inter-Smol, voilà, sûrement, oui. Voilà. Agglomération, aménagement.
Qui travaille sur les...
Partagés, parisiens.
Voilà, qui les questions
c'est
de l'eau.
C'est SIAP, non ?
Je ne sais pas.
C'est un acronyme.
En tout cas, ils gèrent des...
Ils travaillent beaucoup.
Ils font des petits barrages flottants, en fait, notamment en amont de Paris, pour diminuer la pollution visible de la Seine. Vous avez des barrages flottants sur lesquels viennent s'agglutiner, amenés par le courant, aussi bien des déchets végétaux que des plastiques, etc. Et après, il y a des barges spécialisées avec des conteneurs qui viennent ramasser tout ça, en fait.
Mais moi, je crois que sur ces péniches, parce que je crois qu'il y en a deux, en fait, des bateaux, on peut faire plein d'activités dépolluantes, mais plutôt dépolluantes pour l'esprit.
Ah, complètement. Alors, bien que la dépollution, quand on vit à bord, c'est une vraie question. Hein. C'est quoi les produits qu'on utilise pour nettoyer le bateau, pour faire la vaisselle, pour se laver, etc. Donc, on a toute une réflexion là-dessus. On veut accueillir les groupes, notamment sur la péniche Bali, qu'on a récupérée et qui peut héberger 40 personnes. Dans des conditions spartiates, mais très sympathiques, et qui avait été aménagé par un instituteur pour des colonies de vacances, des classes de découverte. Donc on est en pleine réflexion sur comment accueillir le mieux possible des groupes pour les sensibiliser à leur rapport à l'environnement, puisque sur un bateau, on est dans un espace vraiment privilégié pour penser à la fois individuellement et collectivement, en tant que groupe, notre impact sur l'environnement. Et puis en plus, on est dans ce milieu qui est l'eau, indispensable à la vie, et qui est très très manifeste, évidemment, quand on est sur un bateau. Donc,
il faut aussi drôlement économiser l'eau, en général, quand on est sur l'eau, non ?
Oui, on envisage de s'équiper d'une station d'épuration embarquée, pour produire nous-mêmes l'eau potable à partir de l'eau de la rivière. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. S'il y a des techniciens qui s'y connaissent bien en la matière, bienvenue au club pour préparer ça avec nous. Pour l'instant, on a une réserve d'eau sur le bateau, mais effectivement, on est tout le temps en train de calculer nos consommations, de faire attention. Moi, personnellement, ça a été, j'ai toujours une sensibilité sur la question de mon empreinte écologique, si je peux dire, maintenant, comme le terme qu'on utilise. Mais c'est vrai que sur le bateau, j'ai été, c'est une bonne école pour réfléchir à tout ça, hein, et passer à l'action de manière beaucoup plus forte que ce qu'on peut faire à terre. En tout cas, par exemple, les toilettes avec les chutes du Niagara, dès qu'on appuie sur le bouton sur un bateau, ça peut vite devenir catastrophique, parce que s'il y a le moindre problème, ça déborde dans le bateau et c'est une catastrophe, quoi. C'est pas pareil qu'à terre.
Et tout ce qui est culture de paix, alors ça consiste en quoi?
Oui, alors dans l'histoire d'un alternat, une péniche pour la paix, évidemment il y a tout le symbole du bateau, donc tous dans le même bateau.
L'équipe, l'idée de coopération.
Tout à fait. La gestion des conflits, parce que la paix c'est pas l'absence de conflits. On pourrait imaginer un hiver nucléaire où il se passe plus rien. C'est le vide intersidéral. Mais ça, alors c'est une forme de paix. Mais ce n'est pas la paix à laquelle on aspire dans nos cœurs. La paix à laquelle on aspire tous, c'est une paix qui est pleine de vie, pleine de bonheur, de
c'est
joie.
C'est l'altérité, finalement.
Oui, mais qui passe aussi par le conflit, le heurt. Et le problème, ce n'est pas le conflit, c'est la manière dont on vit le conflit, et surtout la manière dont on le gère ou dont on ne le gère pas. L'exemple actuel, là, est-ce qu'il faut faire une ratonnade contre la Syrie en tapant sur tout le monde tout en laissant le dictateur en place, puisque c'est un peu le débat, on parle de punition, etc. Comme s'il n'y avait pas d'alternative entre taper ou ne rien faire. En fait, entre les deux, il y a plein de choses qui peuvent être faites, comme par exemple accueillir décemment les réfugiés politiques, travailler avec eux, ce qu'on ne fait quasiment jamais en France. Les réfugiés politiques sont traités comme des victimes et non pas comme des acteurs égaux avec lesquels on peut faire un travail. Je me souviens d'un député qui avait réagi par rapport aux jeunes Afghans qui se retrouvent à Sangatte, qui veulent traverser la Manche, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces jeunes? Ils devraient être dans leur pays pour lutter pour leur pays. » Mais ce député n'avait pas compris que ce jeune-là, dans son village, probablement, s'il s'engage, ce sera dans les talibans. Et donc, s'il fuit, c'est justement pour sortir de ce clivage manichéen dans lequel, la plupart du temps, les guerres nous entraînent et qui sont suicidaires. Puisque maintenant, voilà, en Afghanistan, c'est encore un exemple. Les armes ont parlé, mais quid de la paix, une fois que les soldats vont partir?
Et en même temps, la paix, c'est pas la fuite non plus.
Tout à fait. Et il y a cet adage, cette phrase de Gandhi que je trouve très, très intéressante quand il dit si je dois choisir entre la violence et la lâcheté, je choisis la violence. Donc de la part de quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi sur la non-violence, ça montre bien que la non-violence c'est une forme de combat, c'est une manière d'assumer le conflit et le combat, mais en refusant d'utiliser la violence, qui est aussi une forme de lâcheté, parce qu'être violent, c'est aussi être lâche, puisque c'est être dans la croyance qu'il suffit de taper ou d'éliminer pour régler le problème. Je prends toujours l'exemple aussi pour la gestion d'un conflit des lacets. Vous avez un nœud sur vos lacets, sur vos chaussures, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un ciseau, vous coupez tout, mais vous détruisez votre lacet. Soit vous, patiemment, vous élargissez les boucles. Et cet élargissement, c'est le symbole aussi du dialogue, de l'espace de parole, en fait. Il faut créer des espaces de parole quand il y a un conflit, que ce soit dans un quartier, dans une famille, entre amis, dans le travail. Il faut créer des espaces de parole, mais sincères. Hein, il ne s'agit pas non plus d'amuser les gens, mais des espaces sécurisés où on peut se dire les choses, même les choses désagréables, et surtout les choses désagréables à un moment, pour pouvoir les dépasser.
Alors, est-ce à dire que le conflit naît de l'absence de communication et puis de conversation entre les gens? Et est-ce que finalement, c'est parce que vous réalimentez?
En partie, on peut dire ça. En même temps, tous les mots sont piégés, parce que de quelle communication on parle, si c'est une communication à sens unique, c'est pas une véritable communication, etc. Enfin, voilà, il y a plein de...
Après, c'est peut-être aussi le droit à s'exprimer, le droit à la parole. L'espace démocratique, construire un espace démocratique, c'est ça aussi, c'est respecter la parole de chacun et donner à chacun les moyens de s'exprimer. Ce qui est, ça, ça ne se limite pas à juste dire à quelqu'un vas-y, parle, dis ce que tu as à dire. Souvent, on s'aperçoit qu'il faut aussi créer les conditions nécessaires pour se sentir également simplement légitime à prendre la parole. Alors, dans des régimes où on a censuré, réprimé très violemment la parole, l'expression démocratique, c'est aussi assez illusoire de croire qu'en juste en punissant un dictateur, on va immédiatement trouver un espace démocratique prêt à éclore. C'est une sacrée école aussi, l'école, et ça prend du temps de pouvoir, alors qu'on a été contraint à se taire pendant des années, à cacher ses opinions, à cacher ses activités, pouvoir à nouveau avoir un dialogue constructif où on apprend aussi à faire des compromis. C'est long et c'est complexe.
Tout à fait. Et en t'écoutant, Laurence, je pense à encore une fois, à la manière dont on accueille les réfugiés politiques. Parce qu'ils ont un courage énorme pour s'arracher à leur pays. Ils le payent très, très, très cher, de tout point de vue. Et la façon dont on les accueille, elle est honteuse, qu'en fait.
Alors aujourd'hui, on a accueilli 700 réfugiés syriens en France depuis le début de l'année. Tous les pays limitrophes, c'est le cas dans tous les conflits, en fait, en général, sont les pays voisins qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Ce ne sont pas forcément les pays les plus riches, au contraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France, elle est assez indigne dans son comportement d'accueil, mais aussi ensuite pour les demandeurs d'asile, par exemple, les conditions d'hébergement. Où en plus on demande beaucoup d'argent aux demandeurs d'asile. Il faut un délai très long le temps qu'ils constituent leur dossier, etc. Et ils se retrouvent accueillis dans des conditions, encore une fois, indignes pour un pays qui par ailleurs se revendique toujours et heureusement de valeurs, de dignité, de respect des droits fondamentaux. Et là, c'est vrai qu'on pourrait vraiment faire de gros. Gros efforts en la matière.
J'ai accompagné un demandeur d'asile tunisien qui avait fait des études de droit en Tunisie. C'était du temps de Ben Ali. Et il m'a permis d'ouvrir les yeux sur cette situation puisqu'il a parlé de mort civile dans ce qu'il était en train de vivre. Et j'ai entendu aussi l'association Primo Levi qui accompagne les réfugiés qui sont victimes de traumatismes. Évoquer le fait que l'attente de la réponse est tellement longue qu'au moment où la réponse arrive, de toute façon, la personne a déjà dépassé en fait un stade où finalement c'est relativement indifférent.
Parce qu'en plus, temps d'attente, on n'a droit à aucun subside et on n'a même pas le droit de travailler.
Et puis c'est très hypocrite parce qu'en fait, ce qui a été suspendu, c'est l'automaticité du droit au travail par une simple circulaire qui date d'Edith Cresson.
89.
Et donc, on ne leur enlève pas le droit au travail, mais on le subordonne à une autorisation préfectorale, locale. Et en fait, dans les services départementaux, l'interprétation est totalement restrictive, c'est-à-dire qu'eux, ils ont conclu qu'il n'y a pas de droit au travail. Donc, de toute façon, on est dans une hypocrisie fantastique. Et le problème, c'est qu'on a accueilli ces dictateurs, je pense aussi à Kadhafi, en leur déroulant le tapis rouge il y a quelques années au cœur de Paris. Et ensuite, on dépense beaucoup d'argent pour abattre leur régime, potentiellement. Et on n'a fait aucun travail avec les réfugiés politiques qui étaient des partenaires d'action, en fait, pour préparer des alternatives. On a accueilli sur Alterna, et j'en suis très, très fier, le Comité pour le respect des droits de l'homme et des libertés en Tunisie, qui fêtait ses 10 ans. On avait mis le bateau pour cette occasion quai Saint-Bernard. C'était très émouvant pour moi parce que je les connais personnellement. Kamel Djanoubi, qui est maintenant à la commission électorale en Tunisie. C'est des choses comme ça qu'il faut faire si on veut être vraiment fidèle aux grands principes, aux grandes valeurs de la France.
Et c'est ce que vous développez, Alternat
C'est ce qu'on essaye de faire, mais dans cet environnement complètement hallucinant où effectivement j'ai en face de moi des gens qui ne s'intéressent absolument pas à ce type de projet. Et qui veulent m'obliger, me réduire à une activité strictement commerciale, en fait. Et c'est complètement fou, parce que là, moi, je vis très concrètement une situation où, sur un domaine public, et géré par un établissement public, on me fait bien comprendre qu'une action d'intérêt général, en fait, n'a plus le droit de citer. C'est vraiment stupéfiant comme constat. Hein. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. J'avais l'habitude, venant du secteur social, de travailler main dans la main avec les fonctionnaires. Là, en face de moi, j'ai des adversaires. C'est clair, quoi, en fait.
Il est 9h, on est sur Fréquence Paris Pluriel. On va peut-être profiter pour faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça me paraît une très bonne idée.
Très bien, parce qu'on a, beaucoup de chance dans ce Zoom Écologie du troisième jeudi. On a dans chaque émission la chance de recevoir un invité musical. Et on l'entend déjà qui s'accorde. Et aujourd'hui, il s'agit de Soria, qui va se rapprocher du micro. Parce qu'avant de chanter, on va lui demander qui elle est.
On va se parler un peu.
On va se parler un tout petit peu. On a entendu un titre. Est-ce que un titre tout à l'heure en début d'émission qui s'appelait Tout recommencer. C'est un titre d'un album précédent ou du prochain album ?
C'est le titre exactement du nouvel album qui sort le 21 octobre.
Donc c'est presque une exclusivité en sort.
Exactement.
D'accord. Exactement. Avec un titre donc très symbolique, Tout recommencer.
Voilà.
Donc c'est quoi Tout recommencer ? C'est repartir sur...
C'est ça, c'est repartir sur de nouvelles bases. Moi j'ai écrit cette chanson en pensant en fait à pourquoi pas un monde meilleur. C'est-à-dire que ça parle en fait de quelqu'un qui est dans sa vie, etc. Je vous explique un peu. Hein.
Bien sûr.
C'est le but. Et puis qui se dit tout au fond, avec ses pensées secrètes, que finalement, cette personne plaquerait bien tout pour recommencer à zéro, être quelqu'un d'autre, et repartir vraiment neuf. Quoi.
D'accord.
Voilà, et c'est
donc c'est une métaphore sur un monde meilleur, ouais. Plus qu'une métaphore sur l'artiste qui redémarre en faisant tout avec un troisième album, en fait. Non, parce qu'on peut l'entendre comme ça aussi. Oui, il y a sûrement un peu des deux. Mais,
si, il y a aussi... c'est mélangé, en fait, ces histoires, ce que je vois, ce que j'entends, et puis ce que je vis personnellement. Enfin, donc, effectivement, c'est un mélange de tas de trucs. Il y a des trucs.
Donc un troisième album, c'est déjà pas mal comme...
C'est pas mal.
C'est une belle vie artistique, ça s'est bien passé les deux premiers.
Ça s'est bien passé, ils sont tous vendus, tout. Bon moi je vends. Hein. Mais il n'y a pas de mal non plus, surtout pour des chansons. Mais oui, ça fait un petit moment que j'exerce ce métier qui est très difficile. Ce qui est difficile, c'est pas de le faire, c'est d'en vivre en fait, hein, évidemment. Parce que bon, c'est une passion, mais c'est aussi un métier pour moi. Donc voilà, en travaillant beaucoup, on a quelques résultats.
Oui, parce que on parle jamais du statut des intermittents. On en parlait tout à l'heure un peu avant l'émission, en préparation avec Eric. Vous êtes intermittente, par exemple, ou pas du tout ?
Non, je cherche pas forcément l'intermittence, mais je suis un cas particulier.
D'accord.
En vérité.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que quand on est souvent auteur, compositeur, interprète, c'est très difficile d'avoir ce statut d'intermittent parce qu'on est sur qu'un seul projet, qui est le sien, qu'on défend, vos albums, vos chansons. Ce qui est beaucoup plus difficile d'atteindre le nombre de cachets requis en une année que quand on est musicien dans plusieurs formations et finalement moins artiste, dans un sens. Enfin, c'est aussi de l'artistique, mais c'est très différent. Enfin, il y a beaucoup de chanteurs comme ça qui sont confrontés à cette difficulté quand même.
Oui, tout à fait, mais de chanteurs, c'est-à-dire d'artistes en tant que tels, mais également de musiciens qui sont aussi carrément, eux, dans un truc de... course au cachet, ils sont vraiment à chercher. Donc le truc du coup est déformé parce que on fait plus de la musique en étant dans le plaisir, mais en étant dans ouais, ça a une date de plus, ça, machin, mon cachet, mes heures, et tout. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est
oui. Bah, c'est pas leur faute non plus, c'est parce que le système engrange ce genre d'attitude.
Et en même
temps,
ça pourrait être un autre débat, mais peut-être pas écologique, mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le cachet. La course. Course à pied, tout ça. Non, mais je suis plus, j'ai perdu vite.
Soria, vous allez jouer.
Peu follet.
pour nos auditeurs qui vont tous sortir leur agenda, vous allez jouer mercredi prochain, on sera le 25 septembre au Café de la Danse.
Ouais, alors ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Donc je fais la sortie de mon album au Café de la Danse, donc à Paris.
Peu cher, pas mal. Hein,
belle salle, très belle
très,
salle.
Très belle salle.
Super belle salle, j'en rêvais depuis un moment. Donc là c'est un peu l'apogée de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Je suis très contente, surtout que c'est bien rempli. Voilà, ça va être énorme.
Une belle soirée, des invités, des surprises.
Oui. D'ailleurs, je vous invite aussi encore des invités.
Ça, c'est gentil.
N'hésitez pas.
Merci.
Eh bien, très bien. On va donc écouter, comme c'est la coutume dans cette émission, un titre en live et en acoustique. Je rappelle que cette émission, c'est un studio de radio, donc il n'y a absolument rien pour faire de la musique. Donc, c'est du bricolage, mais c'est toujours des moments très sympathiques qu'on partage avec... avec notre artiste. Donc Soria est venue avec sa guitare, il y a un beau logo Soria sur le... voilà, donc je vais rapprocher un peu les deux micros. Soria, tu joues comme si tu jouais devant ta cheminée, devant tes amis, ne t'occupe pas trop des micros, on les place comme on peut, et on t'écoute avec toute notre attention. Voilà, c'est parti, c'est Soria sur Fréquence Paris Pluriel, Zoom Écologie.